Quelle semaine? C'était le début de l'été? Oui, on l'a dans les dents. Il fait chaud, c'est humide, les climatiseurs fonctionnent à fond. Mais c'était aussi la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois. Vous savez, c'est quoi notre devise? Non, je n'ai pas de l'air. C'est quoi notre devise? Oui, je me souviens. Ben oui. C'est écrit sur les plaques minéralogiques, là, vous verrez. Quand vous sortirez, là, vous regarderez sur les licences d'auto. Là, c'est écrit « Je me souviens ». « Je me souviens ». 1883, un certain Eugène Taché, architecte du Parlement, a décidé de mettre ça en haut de la porte. « Je me souviens ». La réalité, c'est qu'on ne sait pas exactement à quoi il faisait référence, mais on se doute beaucoup. C'était l'idée de se rappeler, de se souvenir. Écoutez, qui se souvient de Jacques? Jacques Cartier. Quelle couleur a ses yeux? Pas sûr. Tu sais, Jacques Cartier, c'est lui qui a découvert le pont Jacques Cartier, là. Le grand explorateur. Non, mais c'est... vous rappelez-vous à peu près en quelle année? Oh boy, OK, les... 1534, exactement. Qui l'a dit? C'est bon, c'est bon. 1534, c'est-à-dire à peu près 430 ans. Où je veux en venir, là, c'est que ça faisait 430 ans que les Israélites étaient en Égypte. Et c'est à peu près, grosso modo, le même temps depuis Jean Cartier. Ça vous donne une idée, là. Comment c'est pas si simple que ça de souvenir des événements de l'époque de Jean Cartier, des événements de Champlain ou des événements de il y a 10 ans. Fait qu'imaginez comment c'est facile d'oublier, de passer à côté. Et cette semaine, dans le texte qu'on va lire, c'est-à-dire le chapitre 13 du livre de l'Exode, on est rendu là où on va quitter l'Égypte, mais Dieu fait une pause, fait un meeting avec Moïse et lui dit, là, il y a quelque chose qui est d'important que je veux mettre au clair avec mon peuple. Vous devez vous souvenir. Vous devez vous souvenir. Exode 13, 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. À travers le chapitre 13 d'Exode, les versets 1 à 16, on va voir des actions, parce que c'est important pour nous aussi. Hein, presque 3500 ans après tout ça, là, nous aussi, on a besoin des fois d'exercer notre mémoire. Parce qu'on est comme ça, on oublie. On oublie facilement, on oublie rapidement. On distorsionne souvent nos souvenirs. Fait qu'on a besoin de se rappeler. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, on voit une espèce de programme d'exercice pour la mémoire. Fait que c'est là qu'on voit, si je résumais l'exposé de ce matin, ce serait assez simple. Notre liberté a été acquise à grand prix. Saisissons son souvenir avec joie. Alors, on va lire ce passage-là. Julie va nous lire le passage. On va prier, puis après, on plonge. Seigneur, merci, merci, merci de ta parole. Merci du souvenir que tu nous apportes. Merci de ce que tu sois dans notre vie. Merci, Jésus, que tu ne veux pas qu'on oublie qui tu es, ce que tu fais, ta grandeur. Je te prie ce matin de toucher nos cœurs, soit avec ma bouche, soit avec nos oreilles, soit avec nos cœurs à nous tous, pour que ta parole nous émerveille, nous éblouisse et qu'on sorte d'ici un petit peu plus proche de l'image de Jésus que quand on en est rentré. Et c'est dans ton beau nom que nous prions. Amen!
La lecture de ce matin est dans Exode, le chapitre 13, les versets 1 à 14, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Exode, chapitre 13, versets 1 à 14. L'Éternel parla.
Amen. Merci, Julie. C'est un texte intéressant. 16 versets, j'appelle ça des passages persillés. Vous savez, persillés parce que ça se promène un peu, il y a comme deux fois l'histoire. Par exemple, c'est quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, verset 5. Verset 11, on dirait qu'il répète la même chose. Ensuite, on parle deux fois d'un signe sur ta main. Tu diras à ton fils. C'est comme des répétitions importantes. Quand je vois quelque chose comme ça dans la parole de Dieu, une répétition, c'est parce que je me dis, OK, Dieu veut vraiment que je saisisse quelque chose. S'il prend la peine de le répéter, c'est pas parce qu'il avait oublié qu'il l'avait dit trois versets avant, là. C'est parce qu'il considère que ce qu'il va dire va être des plus importants. N'est-ce pas? Et justement, pour ne pas qu'on oublisse, oh boy, coupez ça au montage, pour ne pas que l'on oublie. Le passage commence avec le verset 1, évidemment. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » C'est le principe de fond, le principe de la consécration. Mais pour arriver là, Moïse s'adresse au peuple et là, il commence à définir une façon de faire qu'on va exposer ce matin en partant d'un souvenir. La première action que Moïse demande au peuple, au nom de Dieu, c'est de se souvenir. On est au verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. » Pour se souvenir de ce jour-là, Dieu prend trois angles, on pourrait dire, là, à travers le texte, on le voit là, très clairement. Un angle, premièrement, de balise dans l'année, c'est-à-dire un moment dans l'année, tu vas te rappeler. Des fêtes, tu sais, comme Noël, c'est la naissance de Jésus. Ici, Pâques, c'est pour nous, Pâques n'a pas la même signification que Pâques pour un Juif, mais il y a un lien entre les deux, là. Il y a un lien profond. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Chaque année, à un moment précis, durant 7 jours même, Dieu dit, tu vas te rappeler ce qui s'est passé, te souvenir, rendre un culte à l'Éternel. Le verset 6 continue en disant, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Hein, se souvenir, revivre ce qui s'est passé quand on est parti d'Égypte. Tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours et on ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Une fête qui a un lien avec le départ, évidemment. Le levain, on pourrait penser... Il y a quelque chose qui me fait un peu... qui m'éblouit dans cette histoire-là du levain. Dieu dit, bon, on va faire une fête. C'est important que tu te souviennes. Et même à travers la fête, il y a la fête de Pâques. Ensuite, 7 jours, on ne mange pas de levain. Puis après, il va y avoir une deuxième fête qui est la fête des pains sans levain. Vous comprenez l'idée? Fait que c'est une grosse semaine, là. Une semaine de festivité, dans le fond, avec des jours de... On se rappelle d'où on vient. Et l'idée du levain, bon, évidemment, on le voit dans Exode 12, 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Donc, ce qui a l'air d'un incident, c'est-à-dire il a fallu qu'on parte vite, puis là, bon, on n'a pas eu le temps d'emmener du levain, et on était pressés. Ce qui m'émerveille dans tout ça, c'est de voir à quel point, finalement, c'était la souveraineté de Dieu qui s'exerçait à travers tout ça. Et à travers les pains sans levain, il y a tout un symbolisme qu'on va voir tantôt. Tu sais, c'était sous la main puissante de Dieu, ce qui avait l'air même d'un accident puis d'un oubli, était finalement la souveraineté de Dieu qui s'exerçait, sa main bienveillante qui dirigeait son peuple. Et on voit après dans le premier épître aux Corinthiens, où là, on a ce privilège et cette bénédiction-là, cette grâce aujourd'hui de pouvoir voir tous ces événements-là avec un regard, je dirais, un regard plus complet. Paul dit aux Corinthiens, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et là, on nous ramène avec la notion du péché, on nous ramène avec la notion de Christ, qui, lui, est notre Pâque. Mais au travers de tout ça, il y a un moment dans l'année où on doit s'arrêter, où Dieu nous demande de nous arrêter pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pâques, la fête des pains sans levain. On a mangé des pains sans levain pendant des centaines d'années. Les Juifs ont mangé des pains sans levain en pensant que c'était parce qu'il y avait un incident malheureux. Mais plus la révélation grandit à travers la Bible, plus on arrive à discerner le sens profond et spirituel que Dieu avait pour cette journée-là. Fait qu'il ne faut pas prendre à la légère ces idées de fête ou de penser que c'est juste des moments marqués pour faire la fiesta. Ça va plus loin que ça. Les fêtes que Dieu instaure sont des moments spirituels, des moments de profondeur, des moments où on connecte avec la grandeur et la providence divine. Dans chaque famille, Dieu demande un engagement. C'est intéressant là aussi qu'à travers le souvenir, il y a aussi la notion d'engagement. Exode 13, 11, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères et qu'il t'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. » C'est fort, là. Le premier-né, pour aujourd'hui, on a un peu perdu ce concept-là, mais c'était l'héritier. C'était lui, tu sais, on voit ça des fois dans la royauté, là, tu sais, le premier-né mâle, tu sais, ceux qui regardent ce genre d'émissions-là, de séries, là, tu sais, les rois, c'est important que le premier, ça soit un gars. Ben, c'était comme ça, c'est que le premier-né, c'était lui l'héritier, c'était le porteur de la famille, le successeur du père, celui qui prend la relève. Si tu avais un champ, c'est lui qui devenait l'héritier, qui reprenait la business familiale s'il y en avait une. C'était ton avenir, c'était l'espoir de ma succession, c'était l'espoir de ma famille, l'espoir de mon clan, de tout ce que j'ai, et tu vas le racheter. On le voit là à travers le texte, tu le rachèteras parce qu'il devrait ne pas être là. C'est un premier-né qui m'appartient et tu dois le racheter. C'est un acte de foi envers la miséricorde divine. Donc, dans chaque famille, il y avait un moment aussi de consécration. On prenait un moment dans l'année où on se rappelle ce qui s'est passé. On prend les premiers-nés pour se consacrer, mais ce n'est pas assez. Tu dis, mais oui. Ça peut être très mécanique. À un moment donné, c'est facile de substituer la naissance de Jésus au Père Noël, par exemple, ou des cocos avec la croix. Du chocolat, ou un type. Non, ben, c'est un peu ce qu'on vit souvent, ou que finalement, certains symboles modernes prennent la place des vraies choses, parce qu'on doit en parler. C'est le principe de la transmission, Exode 13, 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. C'est un moment familial. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Se raconter l'Évangile, se raconter ce qui s'est passé. On doit arriver là, ramener le vrai sens de la fête à ce que Dieu veut qu'elle soit, plutôt que de se laisser entraîner par les courants modernes. Donc, C'est un moment familial où le père enseigne à son fils ce que l'Éternel a fait pour moi. C'est intéressant là, pour moi. Parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer dans 3 générations, 4 générations, 5 générations, 10 générations? C'est encore la même parole qui décrit ce que l'Éternel a fait pour moi. C'est-à-dire que je m'approprie, je me suis impliqué personnellement dans ce qui s'est passé. De génération en génération, on est invité à s'approprier cette délivrance-là d'une façon personnelle. C'est un signe sur ta main. Le mot est intéressant ici, là. Le mot « signe », c'est plus qu'une marque, c'est un drôle de mot un peu mêlé entre alliance et engagement. C'est le même mot qui est utilisé pour l'arc-en-ciel, le signe que Dieu donne à Noé. C'est le même mot qui est employé pour Caïn, un signe sur Caïn. Mais c'est un mot qui va plus loin qu'un simple marquage sur la peau ou sur la main, là. C'est un engagement. Un engagement et les Juifs, dans leur tradition, vous avez peut-être déjà vu ça, ils se mettent des petites boîtes sur la main avec un lacet de cuir, ils s'en mettent un dans le front, puis pour se rappeler ce passage-là qui nous dit que c'est un signe sur ta main et sur ton front, les phylactères, mais c'est plus loin que ça. C'est plus loin qu'une petite boîte. C'est de se souvenir de la grandeur de Dieu. De se souvenir de la puissance de Dieu. Se souvenir qu'il y a des moments où Dieu intervient d'une façon spéciale, mais encore plus que ça. Pour nous, c'est de se souvenir de l'Évangile. Se souvenir qu'à chaque jour est un moment spécial où Dieu intervient à chaque moment. Même quand j'oublie mon levain, Dieu est là. Et Dieu intervient. Et ce n'était pas un hasard. Ça me fait complètement capoter. Oui, c'est le mot. Donc, première chose, première action, c'est se souvenir. Se souvenir par des fêtes dans l'année, se souvenir par une consécration, un engagement, on consacre nos premiers-nés, se souvenir par la transmission, en racontant l'histoire de ce qui s'est passé. Mais ça pourrait facilement être assez beige. Vous savez ce que c'est? Une histoire beige. J'aime le beige, là, mais... Mais quand l'histoire est beige, c'est qu'elle n'a pas de couleur. Ça peut facilement devenir très mécanique. On a une fête. On a une fête des pains sans levain. On a de la consécration. Puis on raconte l'histoire et voilà, c'est fait. On passe à autre chose. Ça peut être Non. Dieu veut que ça aille encore plus loin que ça. Le Seigneur veut mettre des émotions aussi avec la fête. Et la deuxième action, c'est se réjouir. Exode 13, 6. Pendant 7 jours, les pains sans levain, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Une fête! Une fête! Le mot fête tire sa racine du mot danser. Et même, il y a un petit sens d'être étourdi, là. Ça vous arrive-tu des fois de tourner sur vous autres, puis là, de « Oh! Ah ben... » C'est pour donner une idée de l'intensité où Dieu veut qu'on aille quand on se rappelle de ses hauts faits. Il y a de l'intensité là-dedans. On prend 7 jours pour se rappeler, regoûter les pains sans levain, puis le 7e jour, c'est le party. Dieu est loin d'être un Dieu austère. Quand j'entends ça, ah, ben vous autres, les chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ci, c'est plate, votre Dieu, il est trop sévère, il est... Bon, en tout cas, interprétez-le comme vous voulez. Austère, c'est le mot. Austère. Mais quand on voit dans le peuple juif, Dieu fixe de nombreuses fêtes et de nombreuses ordonnances de réjouissance. C'était un peuple qui se réjouissait. À tous les 2 mois, il y avait une grosse fête. Chez les Juifs, quand même, là, c'est pour dire, tous les 2 mois. Et chaque fête avait pour but de se rappeler, de revenir pour célébrer la grandeur de Dieu. De se rappeler de sa main puissante. Verset 9. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Parce que c'est par sa main puissante. Parce que c'est par sa main puissante. Prends le temps de t'arrêter et de réaliser que c'est par sa main puissante. Et pour réaliser la puissance de sa main, il faut se rappeler qui il est. Il faut revenir à la source, à lui-même, fixer nos regards sur lui, contempler ses attributs. Ce genre de fête-là n'est pas une fête où on fait juste comme « Ah, ouais, il est bon, il est fort. » Non, on va plus loin que ça. Pour que la réjouissance soit complète et qu'elle soit intense, il doit y avoir une connexion avec sa grandeur. On ne peut pas faire autrement. J'entendais vendredi, quelqu'un parler qu'il avait fêté à Saint-Jean, à la télévision. Là. Puis, il en a eu bien du fun. Je vais parler comme il parlait, là. Ma femme, elle s'en souvient. Ils disent, on a eu bien du fun. Oh, c'était vraiment, vraiment cool. Méchante fête. Ben là, je me rappelle plus vraiment là, le lendemain, là, mais méchante bonne fête. À quoi ça servait? Tu te rappelles plus de rien. Ouais, Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Ça, c'est habituellement la façon qu'on a dans notre société de dire, on va fêter fort. Mais c'est pas là que Dieu veut nous emmener. La réjouissance dans laquelle, je vous l'ai dit, là, c'est des danses, c'est de l'entretien. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant comment? Comment? C'est pas clair. De tout votre cœur. Ça veut dire que ton cœur, mettons que c'est une maison, là. Bien, les garde-robes aussi, les dessous de tapis, partout, de tout ton cœur, chantant et célébrant. Ça veut dire qu'on peut chanter, et ça peut être très mécanique. Mais chanter et célébrer, ça, c'est autre chose. De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fête de sa main puissante qui s'exprime à travers la louange, à travers la fête, à travers un débordement du Saint-Esprit. Une fête de rachat pour lui offrir le meilleur. Parce qu'en arrière de toutes ces fêtes-là, il y avait le rachat, évidemment. Exode 12, 48. Parce que notre Dieu, et j'aimais ça la semaine passée quand Yannick amenait ça, c'est donc vrai, Dieu est un Dieu inclusif. Il veut partager cette joie-là et cette intensité-là avec tous les peuples. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Il va être comme monsieur, madame, tout le monde du peuple, là. Mais aucun incirconcis n'en mangera parce que, un, Dieu veut que tout le monde partage cette joie intense-là de célébrer sa grandeur et sa puissance, mais aussi, il coûte quelque chose de s'approcher de Dieu. Il y a un prix à payer. Et c'est ce qu'on voit dans notre passage aujourd'hui, verset 2, « Consacre-moi, tout premier-né, parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, ils m'appartiennent. » À chacune des fêtes, tout le monde finit par se rappeler que, finalement, tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu et il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il fallait racheter. On devait racheter le premier-né. C'est-à-dire qu'on le consacrait. C'est deux choses différentes, là. On consacre. Je te l'offre, Dieu, mais je le rachète. Ça veut dire qu'il y avait un animal qui devait mourir à la place de mon premier-né. Ce qui sera un signe sur ta main et ton front et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. On ne perd pas dans la consécration, on gagne. On gagne toujours. Mais ça ne veut pas dire que ça va être humainement agréable. Il y a un passage qui me titille depuis le début de la série et qui me parle énormément. J'aime faire le lien entre Exode et Hébreux. L'épître, la lettre aux Hébreux, le livre de l'Exode. Les deux ensemble, là, c'est comme du Gatorade spirituel. Là, c'est fou, là. Hébreux 12, 22. parce que je me souviens. Je ne sais pas si c'est une fibre patriotique, là, les Québécois ici. Là. Vous savez qu'il y en a qui voient la Saint-Jean comme un moment d'affirmer leur patriotisme et leur désir de souveraineté. Ben, quand on se consacre à l'Éternel, on est une autre civilisation. On est un autre peuple. On ne fait plus partie des quatre murs. Là. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Ce passage-là d'Hébreux 12, 22 nous ramène là. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ça, c'est nous, c'est l'Église. On s'est approché des myriades qui forment le cœur des anges. Quand on célèbre, quand on chante de tout notre cœur les louanges du Seigneur, on est en train de chanter avec les myriades des anges dans le ciel qui, eux, sont toujours en train de s'exprimer de cette façon-là. On s'est approché, et ça, c'est un lien direct avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On s'approche de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Maintenant, on est des premiers-nés, des consacrés, des rachetés. Comme ces premiers-nés, tu consacreras le premier-né. Mais nous, on s'est approché de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, lien direct avec ce qui s'est passé à Pâques, et qui parle encore mieux que le premier sacrifice d'Abel. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés, consacrés à l'Éternel. Il y a de quoi être vraiment, vraiment fier. Et quand Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint », il dit ça au peuple hébreu. En fait, la consécration du premier-né était une prémisse, un début de quelque chose. Que tout le peuple finisse par comprendre que tout le peuple est saint, tout le peuple est consacré, tout le peuple se donne jusqu'à arriver à nous, où là, on comprend mieux les choses, on pourrait dire, vous serez saints, car je suis saint. Chaque jour, il y a de quoi se réjouir. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que nous nous voyons ensemble. Hein, regarde autour de toi, là. Regarde autour de toi. Oui, je vois les têtes se tourner. On voit autour de nous, les gens autour de nous, les frères, les sœurs qui sont l'assemblée des premiers-nés, des consacrés à l'Éternel. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il devrait y avoir quelque chose qui s'appelle « Je me souviens ». Je me souviens de la grandeur de Dieu. Je me souviens que pour chacun de nous, il y a une histoire. Et je me souviens aujourd'hui, à chaque dimanche, quand on est ensemble, de la grandeur et de la bonté de Dieu. Donc, premièrement, pour garder la mémoire fraîche, Dieu nous donne des fêtes. Se souvenir, revenir aux événements, reparler des événements, relater les événements, se reconsacrer aux événements, puis se réjouir, en faire une fête de la grandeur de Dieu, laisser notre cœur déborder de joie en Dieu. Puis là, bien, j'aimerais qu'on prenne juste un troisième point pour nous, là. Parce que 3500 ans plus tard, comment se saisir de l'Évangile à travers ce récit-là? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Là. Tu sais, j'aurais pu parler de tous les petits mots et tout ça là, dans le texte, mais c'était trop fort. Là. Ce texte-là est incroyable. Le chapitre 13. Parce que Christ est partout. 1 Corinthiens 10, 11 dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Christ est partout. Du premier, hein, on a notre Bible, premier verset, « Au commencement, Dieu créa. » C'est Christ. Dernier verset, « Maranatha, viens Seigneur Jésus. » C'est Christ. Puis entre les deux, c'est Christ. C'est Christ. Il est partout. Il est partout. Du premier au dernier verset, Christ est présent. Et pour se saisir de tout ce, cette grandeur-là du souvenir, on doit revenir à Christ. Évidemment, cette révélation-là était progressive. Le peuple juif de l'époque, ben, on le voit dans Colossiens 2, 17, où on dit que c'était l'ombre des choses à venir. Il y avait une pensée, il y avait une conscience qui était partielle. Et même à travers ce qu'on parlait tantôt à propos des pains sans levain, c'était pas clair au départ. Mais plus la révélation avance, plus on réalise la profondeur et la grandeur de Dieu à travers ces événements-là. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le mot corps ici, c'est essence, soma. C'est-à-dire, en anglais, c'est le corps, mais le corps, c'est-à-dire l'essence, c'est en Christ. Quand on relit ce texte-là à la lumière de l'Évangile, on passe d'une histoire en noir et blanc à une histoire full couleur, là, technicolor, juste wow! Tout ce qu'on a vu, c'est une figure de Jésus. En partant de la Pâque à la consécration des premiers-nés, Christ est là. Et même, je dirais que Dieu, lui, est allé encore plus loin que ce qu'il exige et ce qu'il demande. Consacrer son premier-né, c'était rien comparé à ce que Dieu fait, comparé à ce que Christ a fait. Ce premier-né-là qui, Hébreux 1,6 nous dit, lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce premier-né-là, Christ, le premier-né, parce que c'est ça l'image, hein? C'est là que ça nous amène directement à Christ, le premier-né, qui est venu, qui a vécu sans connaître le péché, qui a souffert le martyre, la torture, la séparation d'avec le Père et qui est mort sur le bois de la croix. Son sang, c'est le sang de l'aspersion qu'on a vu. C'est là, au-dessus des linteaux qui sauvaient de la mort. Cet agneau qu'on a sacrifié, c'est Christ. Le premier-né qu'on a consacré, c'est Christ. Le pain sans levain, c'est Christ. Sans péché. Christ est partout dans le récit. Il s'agit simplement de s'arrêter et de le voir. Et c'est là que ça commence à être important et intéressant de s'arrêter, d'avoir des dates, d'avoir des moments dans l'année où on arrête et on raconte l'histoire. C'est notre terre promise à nous. Se saisir de l'histoire, se saisir des histoires, voir ce qu'elle raconte, ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui, c'est littéralement notre terre promise. Nous, on est ailleurs, on est dans un sabbat continuel. À chaque jour, c'est un moment de réjouissance où on se souvient de ce que Dieu a fait. Mais à chaque moment qu'on se voit ensemble, on est en train de se rappeler également ce que Dieu a fait. Et on a des moments où on partage le repas du Seigneur en mémoire de Jésus, en mémoire de ce qu'il a fait. Et encore là, on est en train de se rappeler ce que Dieu a fait. Dieu nous a libérés de l'esclavage, il nous libère de la puissance du péché, il nous suit, il nous accompagne tous les jours, il est allé même jusqu'à la mort sur la croix, il est ressuscité. Ce récit-là est une éloge de la foi, littéralement. Dans Hébreux, on le voit très clairement, Hébreux 11, 27, c'est par la foi, et on parle de Moïse, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et c'est pour ça que c'est important de se souvenir. Bon, pour nous, comme pour les Israélites, il y avait des balises, des moments marqués dans l'année où on devait se rappeler parce qu'on est des bébites qui oublient. C'est juste comme ça. On oublie facilement, on se laisse distraire comme rien. J'invite les musiciens à venir me rejoindre parce qu'on va se réjouir. Je l'espère. On va chanter les louanges de notre Dieu et de tout notre cœur parce qu'on se souvient. Premièrement, se souvenir, se rappeler de ce qui s'est passé là-bas en Égypte, mais aussi pour nous, à chaque moment, autant sur la croix, Souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi d'où tu es venu, rappelle-toi ton témoignage. On a tous des moments de souvenirs comme ça. Tu sais, ouvre ta Bible. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible. C'est minimum une fois par année, depuis 35 ans comme il faut. Je ne sais pas. Une couple de fois. Mais à chaque fois, je suis émerveillé de relire les histoires, de relire l'Exode, de relire les chroniques, de voir Dieu à travers ce récit-là, de voir la grandeur de Dieu. Ça m'éblouit et ça m'émerveille. Et ça, c'est fantastique parce que je n'ai pas besoin d'attendre un moment précis dans l'année. Ça peut se faire à tous les moments de la journée. Tous les moments. Je peux me souvenir, je peux me réjouir de sa puissante main triomphante et je peux me saisir du sens profond de ce que Dieu est à travers sa parole, à travers les événements. Quand les épreuves arrivent ou quand la pandémie nous éloigne de la famille ou de la terre promise, on tient bon. Et là, on peut dire, je me souviens. Oui, je me souviens. Je me souviens parce que je m'arrête, parce que je me réjouis, parce que je saisis la grâce et c'est à ce moment-là qu'on tient bon. Parce qu'on se souvient. C'est une méthode ou un plan d'exercice pour ne pas oublier aujourd'hui. Je dirais que, peut-être cette semaine, devoir, ouvre ta Bible, rappelle-toi d'où tu es venu, rappelle-toi ce que Dieu fait dans ta vie, puis réjouis-toi. Vraiment, réjouis-toi. Si tu veux, tu peux danser chez vous. J'en ai été étourdi dans toute cette intensité-là. Et de te rappeler que Christ est partout à travers cette histoire. Prions. Seigneur, c'est toi le merveilleux, c'est toi le glorieux, c'est toi le fantastique qui se révèle à travers chacune des pages de ta parole, à chacun des événements qui sont mentionnés à travers la Pâque, à travers les pains sans levain, à travers la fête des pains sans levain, à travers, là on va voir bientôt, la traversée de la mer. On peut voir à chaque fois ta grandeur, ta puissance. On peut voir Christ. Oui, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on voit Christ, qu'on soit émerveillé et ébloui par lui et qu'on ait juste envie d'en parler, de le communiquer et de le transmettre à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, colle notre famille, colle notre Église, Jésus, qu'on soit contagieux partout où on est, partout où on passe. Merci, Seigneur, d'être ce que tu es. Merci de prendre soin de nous de cette façon-là, d'une façon incomparable afin que nous prenions du temps pour nous rappeler de ce que tu es, de ce que tu fais. Merci Seigneur de ta douceur et c'est en ton beau nom que nous prions. Amen.